Eh bien, bonjour à tous ceux que je n'ai pas encore salués ce matin, je le ferai après. On veut se mettre à l'écoute de la parole de Dieu, c'est vrai. Et je pense qu'il est judicieux pour ça d'avoir un moment de prière avant, pour moi, mais aussi pour vous également. Alors prions ensemble. Seigneur, ce matin, nous voulons nous mettre à l'écoute de ta parole, Seigneur. Et tu sais, Seigneur, que nos vies sont faites de tumultes, Seigneur, de courses, de tracas, de soucis, Seigneur, qui nous empêchent souvent d'être à l'écoute de ta parole, Seigneur, de la recevoir comme tu l'as préparée, Seigneur, pour chacun de nous. Alors, Seigneur, je voudrais que tu puisses en ces instants, Seigneur, faire silence en nous, Seigneur, que tu puisses nous aider à nous concentrer, Seigneur, sur les détails de ta parole, Seigneur, sur ce qu'elle a à nous dire comme encouragement, Seigneur, comme enseignement, comme promesse et comme bénédiction, Seigneur, pour chacun de nous. Seigneur, sois avec nous. Seigneur, sois aussi avec moi, Seigneur. Aide-moi, Seigneur, à parler en ton nom, Seigneur, et à être un bon outil, Seigneur, entre tes mains. Pour que ta parole puisse, Seigneur, passer et que ton nom puisse être proclamé ce matin, Seigneur. Amen. Bon, j'aimerais qu'on puisse imaginer ensemble, bien sûr, ce sera que de l'imagination, mais qu'on imagine ensemble que Satan prenne, ou le diable prenne sa retraite, sa pension. Ce serait bien quand même. Satan prend sa retraite, prend sa pension, finit les tracas, finit les attaques de sa part, il prend sa retraite, il nous laisse tranquille. Il serait gai, Francien. Ouais. Ce sera le cas un jour, mais il ne prendra pas sa retraite. Hein. Il sera puni, il sera condamné par l'éternel Dieu. Et ce n'est pas une retraite qu'il aura, mais il sera condamné pour tout ce qu'il aura fait. Et Satan prend sa pension, prend sa retraite. Et du coup, il doit eh bien, se débarrasser des armes, des outils qu'il a utilisés eh bien, pour nous faire du mal aux chrétiens dans le monde entier. Alors, il décide de rassembler tous ses outils, toutes ses armes, et il va faire une brocante. Or, il va s'installer sur son petit stand, il va préparer ses tables, il va mettre ses outils, ses armes sur son plan de travail, comme ça, et alors il va attendre que le client arrive. Et c'est là qu'un chrétien s'approche et va commencer à s'approcher du stand, et le regard du chrétien va être attiré par un outil en particulier, un outil qu'il ne connaît pas, qu'il ne reconnaît pas, un outil qui est mis à part sur son estal. Et alors le chrétien va demander à Satan, en fait, c'est quoi cet outil ? À quoi ça sert ? C'est quoi son utilité ? Et Satan va dire, ben voilà, avec cet outil, eh bien, j'aurais pu en remplacer beaucoup. Rien qu'avec celui-là, dira Satan, j'aurais pu, eh bien, pour en laisser beaucoup de côté. J'aurais pu me focaliser sur celui-là, parce qu'avec celui-là, j'aurais pu vraiment blesser une multitude de chrétiens. J'aurais pu fatiguer, épuiser une multitude de chrétiens. Et le diable explique aussi que c'est pas pour rien qu'il l'a mis sur ce piédestal, c'est pour que son attention soit tirée dessus. Alors il dira, la drogue, ça a été un outil pour moi, mais j'ai touché qu'une certaine case de personnes. La pornographie, j'aurais touché une certaine case de personnes, mais j'aurais pas fait du mal à tout le monde, à tous les chrétiens. Le mensonge, la haine, tout ça sont des outils, mais qui ne m'ont servi qu'à toucher une certaine catégorie de personnes. Mais avec celui-là, celui pour lequel vous me posez des questions, il dira, Satan, celui-là, je suis entré dans tous les foyers. Je suis entré dans tous les foyers, dans toutes les maisons, dans toutes les demeures, et j'ai pu toucher des chrétiens jeunes, convertis, mais j'aurais pu aussi toucher des chrétiens qui sont matures dans la foi, des chrétiens qui viennent depuis 15, 20, 25, 30 ans, même plus dans l'assemblée, qui sont chrétiens. Il a pu toucher tout le monde. Donc c'est vraiment un outil de prédilection pour Satan, celui qu'il aura vraiment aimé utiliser. Il aura pu attrister, fatiguer, épuiser, faire du tort, et il finira par dire aux chrétiens, l'outil que tu m'as montré, c'est celui du découragement. C'est l'outil du découragement. Et c'est vrai que le découragement, c'est quelque chose qui peut tous nous toucher. Je ne sais pas pour vous, mais moi, j'ai déjà été découragé dans ma vie. Alors peut-être que vous, vous n'avez jamais été découragé, mais ça m'étonnerait quand même que dans la vie avec le Seigneur, parfois, on peut être découragé. Découragement peut nous toucher. Qu'on soit jeune, qu'on soit vieux, qu'on soit jeune chrétien ou ancien converti, le découragement peut nous toucher. Alors peut-être que ce matin, dans cette assemblée, il y a des gens qui sont découragés. Il y a peut-être des gens qui sont ce matin là présents et qui sont venus dans cette maison de prière avec du découragement. Et ils n'ont pas facile. Alors bien sûr, on ne le dira pas aux autres parce parfois on aime bien garder aussi secret notre découragement. On n'aime pas toujours en parler. On dit ça va, mais en fait, en réalité, dans nos cœurs, et Dieu voit nos cœurs, il voit qu'on est découragé. Il voit qu'on est découragé. Et il n'y a pas de honte à être découragé en fait parce que si on regarde dans la Bible, il y a des hommes de foi terriblement importants, terriblement forts qui ont été découragés. Et je pense à David, au roi David, qui a été découragé par moments devant l'ampleur de la tâche qui lui était demandée, devant l'étendue de son péché, même il a été découragé, des conséquences que ça a eues. Et je pense aussi au prophète Élie, qui a lui tellement été découragé qu'il s'est assis en dessous d'un genêt et il a demandé même à Dieu qu'il reprenne sa vie, tellement il était anéanti, il était fatigué, il n'en pouvait plus. Le découragement était tellement là qu'il a demandé au Seigneur qu'il reprenne sa vie. Donc il y a des grands hommes de foi qui ont été découragés. Donc c'est vraiment pas une honte d'être découragé. Alors on est découragé pourquoi? Peut-être qu'on est découragé parce qu'au travail, ça ne va pas. Au travail, il y a des collègues qu'on supporte plus parce qu'ils sont injustes, ils sont agressifs avec nous, ils sont menteurs, ils nous critiquent même sur notre foi. Peut-être que c'est un responsable aussi qui nous cause des soucis. Il est injuste. On a beau faire tout ce qu'on peut pour lui plaire, ben ça ne marche pas, il ne veut pas, on ne sait pas pourquoi, il nous en veut, il nous en veut. Peut-être qu'on est découragé parce qu'avec nos enfants, c'est compliqué. Parce qu'avec les enfants, le dialogue est rompu, parce qu'avec les enfants, ben, ils ne nous écoutent pas. On a l'impression qu'on leur parle de Dieu et qu'ils s'en foutent en fait, qu'ils n'écoutent pas. Et alors ça nous fait de la peine, on est découragé, mais Seigneur, quand est-ce qu'ils vont écouter? Quand est-ce qu'ils vont, ou quand est-ce que ma sœur, quand est-ce que mon frère, quand est-ce que mes parents même parfois vont écouter quand je leur parle de Dieu? On est peut-être découragé pour ça. On est peut-être découragé parce que pour l'instant, dans son couple, eh bien, c'est un peu la galère. Ça fait déjà un moment que ça tourne pas rond dans le couple et que on a beau faire des efforts envers son conjoint, mais on a l'impression que ça marche pas. Ça marche pas. Alors on est découragé parce qu'on se dit, mais enfin, Seigneur, jusqu'à quand? Est-ce que je vais devoir, peut-être que ça va être comme ça tout le temps? C'est pas possible. Je fais des efforts, mais ça marche pas. Alors on est découragé pour une maladie qui dure aussi, peut-être, hein. On est atteint d'une souffrance physique. Et alors on a l'impression que ça, on va voir des spécialistes, on fait des efforts, mais ça marche pas, on est toujours dans la souffrance, et alors on est découragé, on est découragé. Donc on peut être découragé pour plein de sujets différents. Si on est des chrétiens, entre guillemets normaux, eh bien on est passé par le découragement. Ça arrive vraiment à beaucoup de personnes. Et ce matin, du coup, je voudrais qu'on puisse tous ensemble se laisser encourager par la parole de Dieu. Pas par moi, mais par la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu, eh bien c'est une parole vivante. On prêche la parole d'un Dieu vivant, un Dieu qui est vivant, qui est plein de justice, plein de puissance, qui est trois fois saint, un Dieu qui habite les cieux célestes. Et donc, la Bible, c'est sa parole, c'est ce qu'il nous laisse, à nous les êtres humains. Et donc, sa parole, elle est vivante. Comme lui est vivant, la parole de Dieu est vivante. Et donc, c'est à lui qu'on veut se laisser encourager, c'est par lui. Alors, on veut tourner nos regards vers Jésus. C'est Jésus qui est la source de toute espérance, de tout encouragement. C'est Jésus qui a le pouvoir de nous relever de nos détresses. C'est Jésus qui a le pouvoir de nous tirer de la fosse dans laquelle on est. C'est Jésus qui a ce pouvoir de nous dire « Courage, je suis avec toi, ça va aller, ça va aller. » Alors c'est vers lui qu'on veut vraiment se laisser décourager. Et avant de faire notre lecture, qui nous intéressera dans l'évangile de Marc aujourd'hui, c'est l'histoire de Jésus en fait, pour résumer quelques mots. Jésus va sortir d'une ville appelée Jéricho. Et la Bible nous dira qu'il est suivi, entouré d'une assez grande foule de personnes, des hommes, des femmes, certainement des enfants, et il est entouré d'une grande foule parce que Jésus, c'est celui qui change les vies. Jésus, c'est celui qui a de la compassion. Jésus, c'est celui qui pardonne les péchés. C'est celui qui guérit les maladies. C'est celui qui chasse les esprits impurs. C'est celui qui fait du bien. C'est Jésus, certains appelleront le guérisseur, un faiseur de miracles, un prophète. Donc chacun veut voir Jésus, et Jésus fait du bien. Et donc les gens le suivent. Donc il y a sûrement des sourires, il y a sûrement de l'effervescence. On presse Jésus, on l'accompagne, on est dans la joie. On est dans la joie. Et donc Jésus va sortir de cette ville de Jéricho. Et à la sortie de la ville, c'est là qu'on va placer les nécessiteux, les laissés pour compte, les malheureux. Ceux qui sont soit dans des soucis physiques ou des soucis psychologiques terribles, ils vont être placés là, au bord de la route. Et la Bible nous dira qu'au moment où Jésus va sortir de la ville, une voix va se faire entendre à Jésus. Dans tout le bruit, Jésus va entendre une voix languissante, une voix qui va se faire entendre encore, encore et encore plus fort jusqu'à ce que Jésus entende sa voix. Et c'est surtout la voix de cet homme qui nous intéresse aussi. Et cet homme, ce n'est rien d'autre qu'un mendiant aveugle qui n'a qu'un manteau pour s'asseoir dessus et rien de plus. Et peut-être que certains d'entre vous auront reconnu Bartimée dans ce petit portrait. Donc c'est l'histoire de Bartimée que nous allons voir ensemble aujourd'hui. Alors on va la lire ensemble dans l'évangile de Marc à partir au chapitre 10, c'est à partir du verset 46. Évangile de Marc, au chapitre 10, à partir du verset 46 et jusqu'au verset 53. La Marc, chapitre 10, à partir du verset 46. Ils arrivèrent à Jéricho, et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples et une assez grande foule, le fils de Timée, Bartimée, mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth. il se mit à crier « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi !» Plusieurs le reprenaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort « Fils de David, aie pitié de moi !» Jésus s'arrêta et dit « Appelez-le !» Ils appelèrent l'aveugle en lui disant « Prends courage, lève-toi, il t'appelle !» L'aveugle jeta son manteau et se levant d'un bond, vint vers Jésus. Jésus, prenant la parole, lui dit « Que veux-tu que je te fasse ?» Et Bartimée répondit « Rabboni, ce veut dire maître, hein, lui répondit l'aveugle, « Que je recouvre la vue. » Et Jésus lui dit « Va, ta foi t'a sauvé. » Aussitôt, il recouvra la vue et suivit Jésus dans le chemin. Voilà pour la lecture d'aujourd'hui. Est-ce qu'il nous est arrivé parfois, à nous aussi, comme à Bartimée, d'être assis au bord du chemin ? On a l'impression que les gens avancent sur la route, mais nous, on a l'impression qu'on n'avance pas. On est assis au bord du chemin, on est fatigué, on est lassé, on est épuisé. Parfois dans la vie, on peut être même abasourdi par les tracas, les difficultés qui nous tombent dessus. Je ne parle pas du petit découragement, on a crevé une roue en venant à l'église le matin, ou voilà, quelqu'un a pris notre place sur le parking, ça c'est pas très grave ça. Mais vraiment du découragement qui nous prend au cœur, qui nous fatigue, qui nous épuise, du découragement vraiment qui fait son œuvre, hein, qui fait de la peine, qui nous fait de la peine. Alors on peut être assis au bord du chemin, on a l'impression que les autres avancent, sont en marche, mais nous on est assis au bord parce qu'on n'arrive plus à avancer. On est assis, alors on a un genou par terre et voilà, on ne sait plus avancer, c'est comme ça. Et la Bible déclare que Bartimée, lui, il est là, au bord du chemin. Il est assis sur son manteau au bord du chemin et il attend. Il est aveugle, on ne sait pas depuis quand. Il est sur son manteau, il n'a pas d'argent, il n'a pas de revenus, il ne travaille pas. Il n'a peut-être même pas de famille pour s'occuper de lui, alors il est là, il n'a pas d'espérance en fait au départ. Il est là, assis sur un manteau, aveugle, il doit être découragé. Et alors il est assis là, au bord du chemin. Et la Bible nous dit que quand Bartimée a entendu la voix de Jésus, qu'il a reconnu que c'était Jésus qui s'approchait, il va se mettre à crier « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi, aie pitié de ma situation ». C'est ce qu'il va crier. « Aie pitié de moi ». Et c'est le premier exemple que je voudrais qu'on puisse tirer ensemble ce matin sur la vie de Bartimée, c'est que lui, il n'a pas hésité. Il passe par un temps de découragement. C'est depuis longtemps qu'il est découragé, certainement. Mais il va pas abdiquer, il va pas abandonner. Il va continuer à crier à Jésus sa peine, sa misère, et il va demander humblement à Jésus, « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi, aie pitié de ma situation, aie pitié de ce que je traverse, aie pitié de ce que je suis, de ma condition humaine. » Et il crie à Jésus parce qu'il a reconnu en Jésus le consolateur de son âme, c'est lui, il le reconnaît, c'est Jésus. Alors qu'on puisse vraiment, nous aussi ce matin, qu'on passe par des temps de découragement, ne pas hésiter, ne pas se taire, mais savoir, que ce soit dans le secret de notre chambre, ou dans une pièce où on est seul, mais crier la pitié de Jésus, demander sa pitié, l'implorer. Nous traversons des temps difficiles, il faut implorer la pitié de Jésus-Christ. C'est le premier exemple sur Bartimée qu'on pourrait prendre. Et vous savez, Bartimée, c'est au-delà que c'est un mendiant aveugle, c'est aussi un nom particulier qu'il a. En fait, il n'a pas vraiment de nom, Bartimée. On dit que c'est le fils de Timée. Et vous savez, avant, à l'époque de Jésus, et avant ça aussi, quand un enfant naissait, il portait le nom de son père, Bar-Joseph, ou Bar-Jean-Pierre, ou Bar-Éric, fils de Éric, fils de Jean-Pierre. Et alors, quand on remarquait chez l'enfant un don particulier, ou alors quelque chose de spirituellement de spécial, on lui donnait un nom, ou alors un nom qui va aussi parler de son ministère qu'il fera plus tard. Mais avant ça, on portait le nom de son père, Bar-Éric, par exemple. Et lui, il s'appelle juste Bartimée, fils de Timée. Il n'a pas vraiment de nom, en réalité, cet homme. Alors, peut-être que Bartimée, eh bien, en fait, personne n'a peut-être vu en lui rien du tout, en fait, qui était intéressant, qui était assez bien pour qu'on lui donne un nom. Peut-être que ses parents n'ont rien vu en lui de terriblement bien. Alors, on ne lui a pas donné de nom. Il reste le fils de quelqu'un, tout simplement. Peut-être qu'il n'a pas de parents, en fait, aussi. Peut-être que ses parents sont morts. Et qu'en fait, il est resté le fils de quelqu'un parce qu'ils ne lui ont pas donné de nom. Vous savez, c'est comme ça, il ne porte pas de nom. Et peut-être que nous aussi, dans la vie, parfois, on a l'impression qu'on n'est personne dans la vie, hein, parfois. On n'a pas spécialement de nom. On n'a pas un travail super élégant. Hein. Ce travail qu'on fait, c'est un travail passe-partout. Quoi. C'est pas, on n'est pas médecin, on n'est pas avocat, on n'est pas... Voilà, mais on a l'impression aussi que eh bien, les gens ne miseraient pas sur nous. Que les gens ne misent pas sur nous parce qu'on n'a rien d'exceptionnel. Peut-être que nos enseignants à l'école n'ont peut-être même déjà rien vu en nous à l'époque de lumineux comme ça. Ce n'est pas l'élève sur qui on aurait compté. C'est comme ça parfois dans la vie. Peut-être même que nos familles, nos frères, nos sœurs, notre famille proche ne trouve en nous rien d'exceptionnel, rien qui mériterait qu'on ait un titre ou un nom particulier. C'est l'impression qu'on peut avoir parfois aussi. Alors on est simplement le fils de quelqu'un. L'impression que les gens ne nous voient pas, ne comptent pas sur nous, qu'on passe inaperçu, qu'on n'est pas important, qu'on n'est pas assez important pour que Jésus peut-être s'arrête sur nous. Et la bonne nouvelle que je voudrais partager avec vous ce matin, c'est que ça, c'est pas vrai. Ça, c'est l'homme qui agit comme ça, c'est la femme qui agit comme ça aussi. Mais Dieu, lui, on a de la valeur à ses yeux, on a de la valeur aux yeux de Dieu. On a de la valeur parce que Jésus ne lui regarde pas à notre travail, à notre compte en banque, à notre physique, à la voiture dans laquelle on roule, à la maison dans laquelle on habite. Il regarde notre cœur et il voit à l'intérieur de nous le potentiel qu'on a et qu'on va avoir si on accepte Jésus-Christ. Jésus-Christ utilise les moindres petites choses, notre personnalité, pour faire des grandes œuvres. Il aime bien utiliser le Seigneur des petites choses pour faire des merveilles avec des petites choses. Nous avons de la valeur aux yeux de Dieu. Ça, c'est une certitude, une certitude. Jésus me voit. J'ai de la valeur aux yeux de Jésus. Et dans ce texte-là, Bartimée, lui, il est aveugle. Donc, il ne voit pas. Ses yeux sont fermés, il ne voit pas, il ne voit rien du tout. Et pourtant, c'est un des seuls, c'est même le seul qui, dans cette histoire, va reconnaître la véritable identité de Jésus. Regardez comment il l'appelle. Il l'appelle « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. » En fait, Bartimée, tout aveugle qu'il est, il reconnaît en Jésus-Christ que c'est le Messie, que c'est le Sauveur attendu. Là où les autres voient en Jésus un Sauveur, un guérisseur, un prophète, un faiseur de miracles, eh bien lui, Bartimée, il reconnaît que c'est le Messie, que c'est le Sauveur promis, attendu, et c'est le seul. Tout aveugle qu'il est, avec ses yeux physiques, ses yeux de la foi sont ouverts, ses yeux spirituels sont ouverts, alors il reconnaît Jésus. Nos yeux à nous aussi devraient parfois s'ouvrir davantage sur les yeux spirituels que sur les yeux physiques, quand nous regardons les autres surtout. Regardons avec des yeux spirituels plutôt que des yeux physiques, comme Bartimée l'a fait. Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. Il reconnaît le Messie attendu. Peu de gens sur la terre, en fait, dans le ministère de Jésus, ont pu le voir pour qui il était réellement. Et voyez, c'est un aveugle mendiant qui le reconnaît, qui reconnaît Jésus. Dieu se plaît à utiliser les petits pour montrer son royaume aux autres. Et Bartimée, il est là, assis au bord de la route, au bord du chemin, il est sur un manteau. Il ne doit pas être spécialement riche, il a des vêtements certainement sales, hein, il n'a pas d'argent cet homme. Et il va demander humblement, avec foi à Jésus. Aie pitié de moi, aie pitié de ma situation. Il ne va pas cacher ce qu'il a, il ne va pas cacher sa détresse, il ne va pas cacher sa misère, il ne va pas cacher sa condition, mais il va dire, voilà Jésus, je suis ce que je suis, aie pitié de moi, aie pitié de ma situation. Nous avons du prix aux yeux de Dieu, encore aujourd'hui. Et c'est Dieu qui est capable en Jésus de nous sauver du découragement. C'est lui seul, c'est personne d'autre. Ce n'est pas un pasteur, bien sûr, il peut vous encourager. Un ancien peut vous encourager, un frère, une sœur peut vous encourager. Mais il peut vous encourager sur base de la foi en Jésus-Christ que nous avons les uns les autres. Et le souhait de Dieu, lorsque nous approchons de Dieu, lorsqu'on devient chrétien, c'est pas qu'on marche toujours recroquevillé, abattu, qu'on marche à genoux, qu'on marche tout le temps dans le découragement, qu'on marche tout le temps voûté vers l'avant. Ça, c'est pas le souhait de Dieu. Jésus vient donner la vie et la vie en abondance à ceux qui croient en lui. Or, bien sûr, on passe par des temps de découragement, mais le Seigneur Dieu est fidèle pour nous encourager, pour nous sortir de là. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. C'est à lui qu'il faut aller. Hein, comme Bartimée, si on veut être encouragé, si on veut être fortifié, si on veut être béni, si on veut sortir de nos situations compliquées. Il y a un très beau verset dans la Bible que j'ai relevé. Le psaume 34 au verset 7, et on peut l'afficher s'il te plaît. Au psaume 34 et verset 7, quand un malheureux crie, l'Éternel entend. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend et il le sauve de toutes ses détresses. C'est un très beau verset des psaumes. Quand un malheureux crie, l'Éternel l'entend. Jésus, il a entendu Bartimée dans la foule, dans le bruit, sur la route. Il va y avoir du bruit, hein, de l'effervescence, des cris, des rires, les enfants peut-être qui courent autour aussi. Et malgré tout, il entend la voix d'un malheureux qui crie à lui. S'il a entendu Bartimée, il m'entend aussi moi aujourd'hui. Il m'entend dans ma situation, il entend quand je crie à lui, Seigneur, aie pitié de moi parce que j'en peux plus. Il entend, il entend. Et comme ce verset nous l'a dit, au-delà d'entendre, il va agir, il va faire quelque chose pour nous. Vous voyez ? Plusieurs veulent faire taire Bartimée. La Bible nous le dit. Tais-toi. On ne sait pas ce qu'ils lui disent, en fait. On sait qu'ils demandent de se taire, mais qu'est-ce qu'ils lui disent ? Alors moi, je me suis imaginé un petit peu ce qu'ils auraient pu lui dire hein, à cette personne. On imagine Bartimée là, assis au bord de la route, et peut-être qu'on va lui dire, mais tais-toi, en fait, t'es personne, t'es un mendiant, t'es aveugle, t'as même pas de beaux vêtements, t'as pas de travail, t'as pas de famille, t'as même pas de nom, t'appelles juste fils de Timée, tais-toi, c'est du sérieux, Jésus. Hein. Jésus, il vient pour des gens bien, hein. Il vient pas pour des mendiants comme ça, assis au bord de la route, hein. Il vient pour des gens. Jésus, c'est du sérieux, c'est pas de la rigolade. Alors tais-toi, laisse-le passer, hein. T'embêtes tout le monde à crier comme ça. C'est peut-être ce qu'on lui a dit, hein. C'est peut-être ce qu'on a dit à Bartimée. Alors lui, la Bible ne nous dit pas qu'il est resté là, à se taire, recroquevillé, abattu. Mais non, qu'est-ce qu'il va faire? Il va crier encore plus fort. Jésus, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Il va crier plus fort. On va lui dire, mais tais-toi, en fait, tais-toi. Il va crier parce qu'il sait. Il sait que si Jésus l'entend, il est sauvé. Il est sauvé. Et vous savez, parfois, on l'entend cette phrase, parfois pour nous aussi, peut-être qu'on l'a déjà entendu, hein. Tu n'es pas digne, tu n'es pas digne pour que Jésus s'intéresse à toi. Tu n'es pas digne, tu n'es pas assez bien pour que Dieu retourne son regard vers toi. Tu n'es pas digne en fait, mais en fait personne n'est digne. Hein. On l'a rappelé aujourd'hui encore dans la prière, dans la présidence de Benoît, personne n'est digne que Jésus s'occupe de nous. Il l'a fait par amour, tout indigne que nous étions tous et toutes. Personne ne méritait sa faveur et pourtant il s'est intéressé à chacun de nous, à chacun. Quiconque croit en lui, quiconque, c'est n'importe qui. C'est beau travail, c'est pas de travail, c'est mendiant, c'est les pauvres, c'est ceux qui ont un petit appartement qui ne ressemble à pas grand-chose. C'est tout le monde, c'est quiconque, c'est n'importe qui, c'est n'importe qui. Tu n'es pas digne que Jésus s'occupe de toi, peut-être diront-ils à Bartimée. Mais Bartimée crie encore plus fort parce qu'il reconnaît que la personne qui arrive vers lui, c'est le Messie attendu, c'est son sauveur. Et que si Jésus l'entend, il sait qu'il va agir pour lui en sa faveur. Peu importe si nous sommes vieux, si nous sommes jeunes, si nous sommes beaux ou moins beaux, si nous sommes riches ou pauvres, si nous avons un travail exceptionnellement enrichissant ou pas, nous avons de la valeur aux yeux de Dieu. Et la présidence de Benoît nous l'a rappelé encore, c'est qu'une si grande valeur qu'un Dieu trois fois saint a accepté de quitter son paradis céleste et de descendre à notre niveau, descendre vers nous, prendre notre condition humaine, un corps humain, et en plus de cela, d'offrir sa vie. On ne lui a pas volé, il l'a offert humblement, simplement pour chacun de nous. C'est la valeur que nous avons aux yeux de Dieu. Ce n'est pas une petite valeur, c'est une grande valeur que nous avons à ses yeux. J'ai demandé avant de venir à Peggy un billet de 20 euros. Je le rendrai après parce que ce n'est pas à moi. Hein, vous savez, les femmes, c'est comme ça. Hein. Alors, ça a quelle valeur ce billet-là? C'est 20 euros. C'est un billet de 20 euros. Si je le plie comme ça, il a quelle valeur? Toujours 20 euros. Si je le chiffonne dans ma main comme ça, je le traite mal, hein, il a quelle valeur? Toujours 20 euros. Et si je le prends et que je vais même à l'extérieur, qu'il fait un peu humide en plus et que je le frotte, hein, dans la poussière, par terre, un peu dans l'eau, et qu'il sort un petit peu souillé comme ça et que je vous le déplie après, il a toujours quelle valeur? Il a toujours 20 euros. Or, voyez, parfois, c'est un petit exemple pour vous montrer que c'est pareil de nos vies, parfois. Souvent même. On peut être chiffonné, plié, souillé par les péchés, par la vie, par les circonstances qui sont difficiles. Au bout du compte, comme ce billet, on a toujours la même valeur. Et aux yeux de Dieu, c'est comme ça. J'ai de la valeur aux yeux de Dieu. Même si je suis souillé, même si je suis abattu, même si je suis triste, même si je suis sale, même si la vie n'a pas été tendre avec moi, si je suis découragé, eh bien, j'ai toujours cette grande valeur aux yeux de Dieu. Un être humain pour qui Jésus a offert sa vie, est mort et ressuscité pour que je puisse avoir la vie d'abondance avec lui. C'est ça le message de l'évangile aussi. Quand un malheureux crie, l'Éternel l'entend. Vous savez, l'oreille de l'Éternel, elle n'est pas comme nous. Hein. Nous, on est exercé à entendre ce qu'on veut entendre. Et il y a des choses que souvent nos femmes, on les entend moins. Quand elle rouspète un peu, qu'elle râle pour le ménage et tout, pour tondre la pelouse, eh ben on les entend moins. Mais Dieu, c'est pas comme ça. Hein. Dieu, lui, il est exercé, son oreille est aiguisée. Et même s'il est hautement élevé au-dessus de nous, c'est aussi ce Dieu qui nous accompagne, qui est proche de nous. Et donc son oreille, elle est aiguisée à nous entendre, elle est exercée. Et dans son ciel céleste, quand un malheureux crie, un de ses enfants, peu importe de quel pays, peu importe quelles conditions d'argent ou de beauté physique, ou peu importe il est, il l'entend. Parce qu'un malheureux cri, l'Éternel l'entend. Elle est exercée à entendre dans son ciel de gloire. Et pour Bartimée, au milieu du vacarme, dans cette ville de Jéricho, à la sortie où il y a du bruit, où il y a des cris, il y a de la réjouissance, il y a de l'effervescence, on ne la fait pas à Jésus. Lui, il ne demande pas de se taire, il entend. Il éloigne tous les autres bruits de lui et il entend Bartimée qui crie, parce que c'est un malheureux qui crie à lui et il l'entend. Et donc, il va dire à ses disciples une phrase magnifique. Et moi, j'ai essayé de réfléchir un peu à la tête de Bartimée quand les disciples de Jésus sont arrivés vers lui. Or, on sait que ses yeux sont fermés, il est aveugle, il ne voit pas, mais son sourire, son visage, quand les disciples sont venus lui dire « Courage, lève-toi, il t'appelle ». Ou « Courage, lève-toi, Jésus t'appelle ». Un peu le sourire de Bartimée sur son visage qu'il a dû avoir quand les disciples de Jésus sont venus lui dire ça. C'est une très belle phrase que les disciples vont lui dire. « Courage » ou « Prends courage, lève-toi, Jésus t'appelle ». Il a dû vraiment avoir un « soulagé, soulagé, dans la joie, dans la joie ». Quelle belle phrase. Au milieu du vacarme, au milieu de la foule, au milieu de la course, au milieu des bruits, au milieu de la pression qu'on a toujours sur le dos, eh bien lui, Jésus, il entend ce malheureux qui crie à lui. Et vous savez, nous aussi, on est sur une terre où il y a des milliards d'habitants. Il y a plein de pays, il y a des continents différents, il y a des pays. Quand on voit les grandes villes où ça ne dort jamais, les grandes villes, il y a des gens qui vont, qui viennent, on va au boulot, on va aux activités, on n'arrête pas. Et nous, on a vraiment difficile parfois à entendre tout ça, à supporter tout ça. Mais si c'est pour Bartimée, ça a été le cas à l'époque, c'est encore le cas aujourd'hui. Peu importe où je me trouve, petit village ou grande ville, si je crie à l'Éternel, il m'entend, parce que son oreille est exercée à entendre quand je souffre. Il nous entend quand c'est difficile avec notre conjoint. Il nous entend quand c'est compliqué avec nos enfants. Il nous entend quand au travail c'est pénible, ou quand on recherche un travail et qu'on n'en trouve pas. Jésus nous entend dans toutes nos souffrances, même physiques, dans nos maladies. Il nous entend, il entend notre découragement. Et j'ai envie de vous dire également à vous, parce que nous sommes aussi des disciples de Jésus-Christ. Courage, lève-toi, Jésus t'appelle. Nous sommes appelés aussi par Jésus à nous lever, parce qu'il nous a entendus, parce qu'il nous a entendus. Le Seigneur nous invite ce matin à retrouver courage en lui, à prendre courage en sa personne, en sa parole, en ses promesses, en ce qu'il a laissé pour nous. Et quand Bartimée est appelé par les disciples de Jésus, la Bible nous dit qu'il s'est levé, mais pas seulement. Si on peut remettre le passage, vous allez voir qu'il est marqué, il s'est levé d'un bond. La Bible précise, il s'est levé d'un bond. Il n'a pas pris le temps de finir son café, de se lever. Quand j'aurai le temps, je me leverai. Non, il s'est levé d'un bond. Cet homme-là, aveugle, mendiant, malheureux, quand il entend que Jésus passe, qu'on lui parle de Jésus, il se lève d'un bond. Il est prêt. Il est prêt à entendre l'évangile. Il est prêt à entendre la promesse de Jésus pour lui. Il s'est levé d'un bond. Et Jésus lui posera cette question, qui peut paraître bizarre au début. Il est mendiant aveugle. Et s'il est mendiant, c'est sûrement parce qu'il est aveugle, parce qu'il ne sait pas travailler. Du coup, à cette époque-là, il n'y avait rien qui était prévu pour les gens qui souffraient d'un handicap comme ça. Que veux-tu que je te fasse? On a envie de dire, oui, forcément, c'est que je recouvre la vue, c'est qu'il recouvre la vue. Mais Jésus le dira. Que veux-tu que je te fasse? Et cette question, elle est posée à chacun de nous ce matin aussi. Que veux-tu que je te fasse? Dira Jésus. Que veux-tu que je te fasse? Que veux-tu que je te fasse? Et Bartimée va lui répondre, mais Seigneur, je veux recouvrer la vue. Et vous savez, la confiance de Bartimée envers Jésus, il a la foi en lui. Il a confiance en Jésus. Parce que c'est le Messie, c'est le Sauveur. C'est sa foi qui va engager le processus de guérison. C'est sur base de sa foi. Le passage nous le dira après. Et nous devons, nous aussi, quand ça va mal, quand ça ne va pas, quand c'est pénible, répondre à cette question de Jésus. Que veux-tu que je te fasse, mon enfant, mon fils ou ma fille? Que veux-tu que je te fasse? Ne pas mentir à Jésus, il sait toute chose. De lui dire avec honnêteté, je ne vais pas bien, parce que c'est pénible, je suis dans la souffrance, je ne vais pas bien, ça ne va pas. Et on peut noter le verset de Philippiens 4, verset 6, si tu veux bien. Un verset qui nous rappelle une chose importante, Philippiens chapitre 4, verset 6. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Ne vous inquiétez de rien, mais faites connaître à Dieu, parlez-lui. N'hésitons pas à prier, à lui exprimer ce que nous ressentons, ce que nous souffrons. C'est important, c'est important. Certains sont tellement depuis longtemps dans les soucis, la détresse, du découragement, qu'ils vont dire, oui, mais c'est plus pour moi, c'est trop tard. La bénédiction de Dieu, c'est pour les autres, ce sera plus pour moi. La guérison, c'est plus pour moi, c'est pour les autres. Ça fait tellement longtemps que j'y suis que ça ne changera plus maintenant. Bénir mon couple, c'est trop tard pour moi, ce sera pour le couple des autres certainement, mais pas pour moi. Mes enfants, bah, ils s'approcheront jamais de Dieu parce que j'ai tellement longtemps compris pour eux que je suis découragé, c'est fini, le Seigneur les voit plus, il ne les voit plus. Hein? C'est épuisant le découragement, ça fait souffrir parfois. Ça fait, on est épuisé, on est assis au bord du chemin comme Bartimée. Hein? Moi, le travail, c'est fini, je serai condamné à subir ce patron-là tout le temps ou subir mes collègues parce que c'est comme ça maintenant, c'est comme ça. Mais non, Bartimée n'a pas tenu bon, lui, de se taire et d'abdiquer. Il a continué avec foi à prier Jésus. Aie pitié de moi. C'est ce que nous devons encore faire ce matin. Et Seigneur, il est là pour renouveler nos forces, pour nous remettre debout, pour nous tirer. Dieu n'est pas un Dieu qui écrase, qui appuie son pied sur nous pour nous mettre dans la poussière. Hein. Dieu, c'est un Dieu qui veut nous tirer vers le haut, qui veut nous relever, qui veut nous tirer, qui veut nous bénir, qui veut nous faire du bien. Seigneur, viens me faire grâce. Bartimée dira au Seigneur que je recouvre la vue. Et le Seigneur, sur la foi de Bartimée, va exaucer sa prière. Voilà. Ta foi t'a guéri. Va, ta foi t'a guéri. C'est un petit peu le thème de Jean-Pierre, hein, la présidence Zoom qu'on a eue. Augmente notre foi. On a prié pour que Jésus augmente notre foi. Mais c'est vrai. Nous sommes des hommes et des femmes de peu de foi. Nous doutons souvent du Seigneur Jésus. Et Bartimée est un bel exemple. Voyez un malheureux mendiant qui n'a pas d'argent. Combien de leçons il a à nous apporter. Bartimée a recouvré la vue. Et alors, la Bible nous dit que, et je terminerai avec ça, il va suivre Jésus sur le chemin. Hein? Alors, ce n'est pas simplement suivre sur un chemin quelconque. Hein? C'est suivre le chemin, la vérité et la vie. C'est suivre le Sauveur, son enseignement. C'est suivre sa doctrine. C'est suivre le Sauveur, suivre Jésus, être disciple de Jésus qu'il va faire. Nous sommes bénis de Dieu souvent, ça a été le thème aujourd'hui de la présidence aussi. Nous sommes bénis de Dieu, protégés, soutenus par lui, même quand on ne se rend pas compte. Et nous avons tendance, nous les êtres humains, c'est que nous disons merci à Dieu. Et puis parfois, nous repartons dans ce qui nous a découragés. Nous retournons vers ce qui nous a fait du mal. Nous repartons dans des situations compliquées, alors que le Seigneur nous a bénis. Vous voyez ici, Jésus, Bartimée, pardon, il ne jette même pas son manteau. Il jette son manteau hein, sur lequel il était assis, sur ses souffrances, qui représentent son découragement. Ça représente ses misères, tout ce qu'il a voulu abandonner. Il jette son manteau. Il se lève d'un bond et il suit Jésus, il suit le Sauveur, il suit son enseignement, il devient disciple de Jésus. Quand Dieu nous restaure, ce n'est pas pour que nous retournions à ce qui nous a fait souffrir. C'est pour changer d'orientation, c'est pour nous recentrer vers Jésus-Christ. Regardez à lui, tournez nos yeux vers lui. Il y a un très beau psaume, on peut l'afficher aussi, le psaume 119, versets 10 et 11. Psaume 119, versets 10 et 11, un encouragement. Regardez ce qu'il dit. Psaume 119, versets 10 et 11. Je te cherche de tout mon cœur. Ne me laisse pas égarer loin de tes commandements. Et le suivant, je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Je serre ta parole contre mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. La parole de Dieu n'est pas morte, je l'ai dit en commençant. C'est une parole qui est pleine d'encouragement, pleine de détails. C'est une mine d'or, en fait, hein, pour le chrétien, qui accepte de l'ouvrir, sa Bible, évidemment. Parce que c'est pas en la regardant comme ça que les pépites d'or vont sortir. Hein. C'est une mine d'or qui n'est pas tarie. Il y a encore des grosses pépites. Il y a toujours des grosses pépites à aller chercher dedans. Des pépites d'encouragement. À nous de savoir creuser. À nous de savoir aller les chercher, hein, souvent. Elle est pleine de promesses, pour ne pas qu'on soit découragé. Comme cette belle promesse, Matthieu 28, 20. Voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Jésus s'en va près de son Père, il remonte près de son Père et il dira à ses disciples, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Mais c'est pour nous aussi cette promesse-là. Le Seigneur Jésus est avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et lorsque nous mourrons, lorsque nous sommes enfants de Dieu, nous ne mourrons pas. Nous allons automatiquement dans la présence de Dieu. La présence de Dieu. Que de belles promesses dans la Bible. Jésus entend le cri du malheureux. Il l'entend et il agit. Jésus entend le cri du malheureux, il l'entend et il agit. Alors n'hésitons pas ou n'hésitons plus ou revenons à lui. Réapprenons à crier comme Bartimée. Même qu'on nous demande de se taire, même qu'on a l'impression qu'une petite voix en nous nous dit « Tais-toi, c'est plus la peine, c'est Satan qui dit ça, c'est pas Dieu. » Crions à l'Éternel nos souffrances, nos difficultés. Le Seigneur nous appelle encore ce matin comme il a appelé Bartimée. « Lève-toi, courage. » Je t'appelle ou Jésus t'appelle. C'est ce que je suis appelé à vous dire aussi ce matin. Courage, lève-toi, Jésus t'appelle. Et quand Jésus t'aura visité, parce qu'il te visitera, et il me visitera aussi, et il m'a déjà visité pour beaucoup de choses dans la vie, eh bien, il ne nous abandonne pas. Il nous encourage. Prends courage, lève-toi, Jésus t'appelle. Amen. J'aimerais terminer par la prière avec vous. Seigneur, ce matin, merci pour ta parole. Seigneur, merci pour son encouragement. Seigneur, merci pour ses promesses. Seigneur, merci pour ses pépites d'or, cachées, Seigneur, à l'intérieur, dans les détails parfois, Seigneur. Seigneur, tu es un Dieu qui souhaite nous parler. Seigneur, tu es un Dieu qui souhaite nous encourager, nous fortifier, nous relever. Tu es un Dieu, Seigneur, qui se plaît à entrer en relation avec nous. Seigneur, tu aimes quand on crie à toi. Seigneur, tu aimes quand on te prie avec insistance, quand on crie à toi notre misère, notre détresse, Seigneur. Seigneur, tu es bon, tu es fidèle, Seigneur, pour nous relever. Alors, Seigneur, ma prière, c'est que, qui que nous soyons aujourd'hui dans cette assemblée, Seigneur, si nous sommes découragés, Seigneur, c'est que nous puissions continuer, Seigneur, à ne pas abdiquer, Seigneur, ne pas lâcher, mais continuer, Seigneur, à te parler, à te faire part de nos détresses, de nos misères, Seigneur. Et comme pour Bartimée, Seigneur, où tu as entendu, Seigneur, sa voix, Seigneur, tu entends aussi la nôtre. Seigneur, et quand tu l'entends, tu veux agir. Seigneur, augmente notre foi, c'est vrai, Seigneur, que nous puissions te reconnaître, toi, Jésus, comme notre Sauveur, le Fils de Dieu, pleinement Dieu, trois fois saint. Seigneur, c'est toi qui nous délivre, c'est toi qui nous fais du bien, c'est toi qui nous sors du découragement, Seigneur, c'est toi qui nous fortifie, et nous voulons encore, Seigneur, avoir la foi en ton nom béni ce matin. Amen.